France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Xavier Jaillard, chancelier de l'Académie Alphonse Allais. Avant d'endosser cette prestigieuse fonction, il a travaillé chez Barclay, animé un cabaret avec Francis Blanche et bien connu le chansonnier Robert Roca, des personnages que nous évoquerons ensemble, sans oublier les autres spectacles de Xavier Jaillard, notamment La vie devant soi, Molière de l'adaptation. En fin d'émission, salut à Notre-Dame avec une sublime version des Litanies à la Vierge Noire de Poulenc. Mais avant toute chose, si nous commencions par être heureux.
Je suis si heureux,
si heureux, si heureux,
que je crois bien que je suis amoureux.
C'est un garçon si poli et ses yeux sont si jolis que je ne pense qu'à lui.
Je suis si heureux,
si heureux, si heureux,
depuis que j'ai embrassé ses cheveux.
Si vous saviez ce que ça fait, ce que ça m'a fait comme effet, j'en fus toute décoiffée.
La voyant si candide, je disais soyez pas timide.
Il était si timide, j'entendais pas ce qu'il disait.
Je suis si heureux,
si heureux, si heureux.
Elle m'a promis de venir sous peu.
Je ne sais pas si j'irai, car on peut se déshonorer à tenir ce qu'on promet.
Maintenant je l'attends.
Est-ce que j'irai ce soir?
Je l'attends en tremblant.
Est-ce que j'irai le voir?
Oh, je suis si heureux, si heureux, si heureux, que vous soyez venu, c'est merveilleux.
C'est un geste irréfléchi,
oh.
Mais je suis là en ami,
ah.
Tout ne vous est pas permis.
Je suis si heureux, si heureux, si heureux, que je veux me montrer respectueux.
Vous m'embrassez cependant, et il me semble vraiment que le respect fout le camp.
Bien sûr, je vous embrasse. Que feriez-vous à ma place?
Je suis si bien à ma place que je ne veux pas changer.
Je suis si heureux,
si heureux, si heureux,
que je ne trouve rien à dire de mieux.
Quand un bonheur est perdu, un soir vous tombe dessus, que peut-on dire de plus?
Eh ben, je suis si heureux.
Je suis si heureuse. On est si content.
Oh, la charmante petite chanson. Je ne sais pas si vous avez reconnu Colette de Réal, regrettée Colette de Réal, mais aussi à côté d'elle, le cher Marcel Amont, qui lui sera bien là avec nous dans un mois pour les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Ce sera un des invités d'honneur de cette grande soirée à laquelle nous vous invitons au Studio 104, et avec Marcel Amont également Marie-Paul Bell, Hervé Villard, Nicole Broissin, Jean-Claude Petit, Marie-Thérèse Aurin, Hugues de Courson, Jean-François Kahn, Franck Le Guérinel, Marie Lenormand, Émeline Bayard, Jaillard, Daniel Collin, Dominique Cravic, Claire Elzière, N'en jetez plus, et l'Orchestre des Frivolités Parisiennes. Une grande soirée de radio et de musique pour fêter les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Vous pouvez, à partir de demain dimanche, réserver vos places sur le site maisondelaradio.fr. À parole de l'excellent Joseph Strauss sous la direction de Willy Boskowski, la musique légère, la musique viennoise, qui sera évidemment elle aussi au programme des 20 ans d'Étonnez-moi Benoît.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais pour l'heure, nous allons retrouver mon invité, un homme éminent, puisqu'il est donc, je vous le disais, le chancelier de l'Académie Alphonse Allais, la seule vraie concurrente de l'Académie française, et qu'il a mené avant cela quantité d'activités qui nous passionnent, à Étonnez-moi Benoît, parce qu'elles ont rapport avec l'humour et avec la chanson, et puis aussi avec ces grands personnages que furent notamment Robert Rocca ou encore Francis Blanche. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Jaillard.
Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri, oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Sans parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Oui,
qui soit un peu comme un parti. Un parti placé au-dessus des partis.
C'est le parti.
En bref, un parti.
Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Qui puisse protéger la partie de tous les autres partis, et ceci jusqu'à ce qu'une bonne partie soit partie, et que l'autre partie s'est partie, et compris qu'il faut être en partie réparti, tous en un seul parti,
notre parti.
Notre parti,
parti d'Henri,
oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Nous avons placé nos idéaux bien plus haut
de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri,
c'est le parti de
tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Notre parti, parti d'Henri,
adieu de valeur, de tout ce qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas, qui ne va pas.
C'est le marteau de tout ce qui n'est pas pris, le marteau.
Oui, pour vivre heureux, prenons le parti d'en rire.
Oh, la joie et la gaieté peuvent nous sauver du pire.
La franchité,
la saignée,
la gaieté,
la bonne gaieté des familles.
Oui, notre parti, parti d'en rire. Oui. C'est le parti.
Et puis ça va comme ça pour aujourd'hui.
Nos buts sont déjà fixés.
Réconcilier les yeux brouillés.
Faire que le veau d'or puisse se coucher.
Apprendre aux chandelles à se moucher, aux lampes pigeons à roucouler.
Amnistier les portes condamnées,
à l'exception des porte-manteaux.
Tiens, ça rime pas.
Je sais. C'est pour ça qu'ils peuvent s'accrocher.
Exiger que tous les volcans soient ramenés une fois par an.
Simplifier les lignes d'autobus en supprimant les terminus.
Et pour prouver qu'on n'est pas chiche, faire beurrer tous les hommes sandwich.
Voilà quel est notre programme.
Voilà un hymne salutaire dans notre France passionnée de politique. Bonjour Xavier Jaillard.
Bonjour.
Le parti d'en rire, chanson de Francis Blanche et Pierre Dac, ici interprétée par les Quatre Barbus sur la musique de Ravel. Ce qui vous rappelle d'ailleurs une anecdote, je crois.
Eh ben oui, parce que Francis Blanche m'a raconté que quand il chantait ça en scène avec Pierre Dac,
oui.
Eh bien un soir ils ont eu la surprise d'avoir la visite d'un huissier envoyé par les héritiers de Ravel. Il y avait encore des droits.
Toujours les fameux héritiers de Ravel.
Oui, et les héritiers de Ravel ont fait faire un rapport d'huissier et il m'a donné à lire le verbiage d'un huissier
sur cette chanson.
Racontant cette chanson, c'était inénarrable.
Voilà, en tout cas, un petit chef-d'œuvre qu'on ne se lasse pas de réécouter. Il existe d'ailleurs une version avec Dac et Blanche, mais alors il faut dire qu'ils ne chantent pas très très bien Pierre Dac. Hein.
Non, ils n'ont jamais chanté très bien, ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi j'ai pris les Quatre Barbus. Et puis je me disais, pour commencer, le parti d'en rire, c'est forcément le parti du chancelier de l'Académie, Alphonse Allais.
Je crois que c'est le parti principal qu'il devrait y avoir dans ce pays.
Voilà, l'Académie Alphonse Allais, dont vous êtes chancelier depuis 2017, mais oui. À laquelle vous appartenez depuis fort longtemps.
Ah, j'en ai été d'abord le porte-parole pendant 9 ans.
Voilà. Vous pouvez nous rappeler un petit peu, je dois dire modestement que j'ai l'honneur d'en faire partie, mais je ne connais pas bien toute l'histoire. D'où vient cette Académie Alphonse Allais ?
Eh bien, l'Académie Alphonse Allais était une réunion de joyeux lurons qui s'est fondée en 1954.
Ouais.
Sous la houlette d'Henri Janson, qui était quand même
un
grand monsieur du cinéma. Et le premier intronisé a été Eugène Ionesco, s'il vous plaît.
Ah oui, c'est pas mal non plus. Oui.
Alors, ils ont créé ça d'une manière informelle, donc au milieu du XXe siècle. Et puis, c'est devenu une véritable association qui intronisait et qui intronise toujours. Et ça, depuis 1980. Et aujourd'hui, nous sommes une centaine d'académiciens.
Voilà, c'est beaucoup plus que l'Académie française, en l'occurrence.
Vous donniez tout à l'heure une sorte de définition de l'Académie Alphonse Allais. Et j'affectionne beaucoup celle qu'a donnée un jour à une antenne de France Inter, je crois, notre doyen, qui est René de Obaldia, qui est aussi doyen de l'Académie française.
Exactement,
et qui a 100 ans révolu.
Ouais.
Et un jour, on lui a demandé, mais quelle est la différence entre l'Académie française et l'Académie Alphonse Allais, il a répondu, il y en a une qui est plus drôle que l'autre. Il n'a pas précisé laquelle.
J'ajoute aussi que dans la version Dac Blanche du Parti d'en rire qu'ils ont enregistré, il est indiqué qu'au piano se tient probablement monsieur de Chassipoulet.
Absolument.
Pierre Arnaud de Chassipoulet, qui vous a précédé dans ses fonctions, qui était aussi un personnage important
de
ce petit monde.
On s'est connu, enfin j'ai connu l'Académie Alphonse Allais grâce à Pierre Arnaud de Chassipoulet. J'ai travaillé pendant des années avec Francis Blanche, j'ai créé avec lui mon premier théâtre, et je savais depuis toujours que dans Signé Furax, tous les épisodes se terminaient par « Et de qui est la mise en onde ?» de Pierre Arnaud de Chassipoulet, bien sûr. Et nous, toute la France a cru que c'était une blague, un nom inventé. Et un jour, je jouais une pièce que j'ai écrite sur Francis Blanche bien après sa mort, qui s'appelle L'oursin de Francis Blanche. Et dans ma loge, à la fin d'un spectacle, est arrivé un monsieur qui s'est présenté en me disant « Je suis Pierre Arnaud de Chassis-Poulet ». Et je lui ai répondu « Je croyais que vous n'existiez pas ».
Parce que c'était pas son vrai nom d'ailleurs.
Il s'appelait Pierre Arnaud.
Tout simplement.
Je vous raconte l'histoire.
Ouais.
Tout de suite après la guerre, il était preneur de son à la, ce qui était France Inter, hein, ce qui allait devenir France Inter, qui était le poste parisien, je crois. Ouais. Et puis, il avait mis sur sa porte, pour faire une blague, au bout de son nom, Pierre Arnaud, de Chassis-Poulet, parce qu'il avait une ancêtre qui était arrivée en France dans les valises de Joséphine de Beauharnais. Et il n'a laissé, m'a-t-il dit, cette carte de visite qu'une seule journée, mais c'est le jour où est venu un petit jeune homme fluet qui venait proposer ses poésies et qui s'appelait Francis Blanche et qui n'a jamais oublié.
Et voilà, et du coup le nom est resté célèbre et presque officiel. Xavier Jaillard, on va revenir sur beaucoup de ses souvenirs, avec peut-être d'abord une remontée dans vos tendres années d'enfance et une chanson peut-être qu'on écoutait dans votre famille.
Les jours de repassage dans la maison qui dort, la bonne n'est pas sage, mais on la garde encore. On l'a trouvée hier soir derrière la porte de bois, avec une passoire se donnant de la joie. La barbe de grand-père a tout remis en ordre, mais la bonne en colère a bien failli le mordre. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises, il pleut sur mon amour. La revanche des orages a fait de la maison un tendre paysage pour les petits garçons qui brûle d'impatience de jour avant Noël et sans aucune méfiance accepte tout pêle-mêle. La ville, la mort, les squares et les trains électriques, les larmes dans les gares guignolent et les coups de trique, les becs d'acétylène aux enfants assistés et le sourire d'Hélène par un beau soir d'été. Donnez-moi quatre planches pour me faire un cercueil. Il est tombé de la branche, le gentil écureuil. Je n'ai pas aimé ma mère, je n'ai pas aimé mon sang, je n'ai pas aimé la guerre, je n'ai pas aimé la mort. Je n'ai jamais su dire pourquoi j'étais distrait. Je n'ai pas su sourire à tel ou tel attrait. J'étais seul sur les routes sans dire ni oui ni non. Mon âme s'est dissoute. Poussière était mon nom.
La folle complainte Charles Trenet en 1951. Vous n'étiez pas bien vieux, Xavier Jaillard.
Non, mais j'avais déjà le sentiment que la chanson avait pris un virage définitif.
Oui.
Et je crois que je vais faire plaisir en disant ça à Jean-Claude Carrière.
Oui.
Jean-Claude Carrière, auquel j'ai donné le prix Alphonse Allais il y a 2 ans et qui me disait que c'était la plus belle chanson du monde.
Qu'est-ce qu'on écoutait chez vos parents sur le poste de radio ou sur le tourne-disque dans ces années 50?
Je ne sais pas ce qu'ils écoutaient, c'est plutôt mes grands-parents qui écoutaient. Et moi, quand j'avais 6 ou 7 ans,
ouais,
je restais derrière la porte et j'écoutais les chansonniers. J'écoutais le club des chansonniers du mercredi soir.
Ah oui, déjà quand même.
Ah oui, oui, oui. J'ai même essayé d'écrire tout petit des textes pour devenir chansonnier à mon tour.
Il faut dire, Xavier Jaillard, que vous êtes
un Parisien, parce que vous avez quand même plutôt grandi à Paris, mais originaire du Morvan. Hein.
Ben oui, ça, ouais. Il se de là-bas, oui. je suis né dans le petit village à côté de celui où a vécu Jules Renard toute sa vie. Ouais. J'ai été baigné dans Jules Renard.
Vous présidez d'ailleurs aujourd'hui le prix Jules Renard, oui, là-bas à Autun.
Que j'ai fondé un peu à cause de ça.
Voilà, mais vous êtes vite arrivé au lycée Jacques Decour à Paris.
Mais non, j'ai grandi au Canada. Mon père était l'un des directeurs de Radio-Canada. Je suis revenu à 7 ans en Bourgogne, où j'ai continué de grandir dans une école à Vézelay. Et puis, à 14 ans, je suis devenu un poulbeau et j'ai fini mon adolescence à Montmartre.
Non, mais ça s'arrête pas là, parce qu'après, vous êtes parti faire vos études à Salzbourg.
Oui.
Des études de quoi?
Des études d'allemand. Je suis même devenu professeur de français en Allemagne.
Voilà, donc on n'était pas tout à fait encore sur la voie du chansonnier à ce moment-là.
Si, parce que j'écrivais déjà tout ce qu'on peut écrire. Vous savez, un professeur de lettres, ça écrit tout ce que ça peut.
Bien sûr. Et puis, vous écoutiez les chanteurs de l'époque, Brel, Brassens, Bobby Lapointe, ce sont un peu vos...
C'était mes repères, oui. Enfin bon, avant Bobby Lapointe, il y avait quand même Brel et il y avait quand même Brassens.
Il y avait quand même Brassens. Alors, néanmoins, quand on a commencé à préparer cette émission et évoquer les musiques qui vous avaient marqué dans votre jeunesse, il est arrivé vite le nom des Swingle Singers.
Oui, j'écoutais en boucle un vieux vinyle qu'on m'avait donné. Et les Swingle Singers chantaient du Bach.
Oui, bien sûr.
Mais à la manière du jazz. Et c'était la sœur de Michel Legrand qui était la voix.
Christiane Legrand, oui.
Et c'est pour ça que je vous en ai parlé. Ça me bouscule l'âme.
Oui.
Et notamment parce que ça me rappelle un vieux souvenir. Alors ça va rappeler à tout le monde, je crois. Dans le film Les Aventuriers avec Delon et Ventura.
Oui. Lorsque... Film de Robert Enrico. 1966.
Je crois que c'est ça.
Oui.
Johanna Chimkus meurt et comme sépulture, on la met dans un scaphandre, on la jette dans l'eau sur un air des Swingle Singers.
le concerto pour clavecin en fa mineur BWV 1056 de Jean-Sébastien Bach, revu évidemment par Walt Singel, l'animateur des Swingle Singers, et Christiane Legrand, évidemment, merveilleuse dans cet enregistrement. Merci Xavier Jaillard de nous l'avoir recommandé.
C'est à moi que ça fait plaisir.
C'est vrai, vous êtes toujours heureux de le réentendre,
oui,
j'imagine.
Oui, oui.
Et donc voilà, alors nous en sommes à vos débuts de professeur d'allemand, rentrant de Salzbourg, mais déjà passionné par la chanson, les textes, le spectacle. Alors finalement, vous êtes entré chez Barclay, comment est-ce que ça s'est passé?
Je suis comme beaucoup de professeurs de français, je suis passionné par tout ce qui s'écrit.
Ouais.
Et à l'époque, j'écrivais de tout.
Ouais.
J'écrivais des articles pour les journaux, j'écrivais des paroles de chansons, j'y mettais mes musiques.
J'essayais aussi les musiques, ah oui.
Ah oui, j'essayais d'être auteur, compositeur, interprète, ce que j'ai été, j'en ai vécu quelques années.
Ah ouais.
Et je ne voulais pas donner mes paroles aux autres. Mais je suis devenu copain avec Eddie Barclay, qui m'appelait la nuit pour que je lui fasse des paroles.
Comment est-ce que vous l'aviez rencontré?
Oh, c'est toute une histoire. Un jour, je suis venu lui proposer un disque.
Ouais.
Je me réveille un matin et j'entends « Le général de Gaulle est mort ».
Oui.
Et je me suis dit « Tout le monde aura préparé un disque sur sa vie ». Personne n'aura raconté les circonstances de sa mort. J'ai donc, en 48 heures, raconté les circonstances de sa mort, avec au verso du disque, sur la face B, les réactions des plus grands du monde. Et ce disque, je suis allé le proposer à Eddie Barclay.
C'était tout à fait sérieux, ça, alors.
Ah ben, il l'a distribué,
ouais.
Il s'est vendu quelques dizaines de milliers d'exemplaires le vendredi qui a suivi sa mort.
Ah oui, alors donc vous êtes devenu un conseiller occulte d'Eddie Barclay.
Ben on est surtout devenu copain, quoi.
Oui, c'était plutôt copain avec lui. Oui,
il m'a mis en tandem, il le faisait souvent, il m'a mis en tandem avec un formidable musicien que vous avez peut-être connu ou dont vous avez entendu parler, qui est Raymond Le Sénéchal.
Oui.
Et Raymond Le Sénéchal et moi, nous écrivions des chansons. Et puis vous savez, quand Eddie Barclay, qui nous invitait pour ses grands raouts, il nous a emmenés au carnaval de Rio. Et pour le remercier, comme on était en tandem, on faisait des chansons pour le remercier, il les co-signait et ça faisait les faces B.
Voilà, c'est comme ça que ça marchait chez Barclay. Et au Square d'Anvers, notamment. Alors,
oui, alors j'avais trouvé...
au pied de la butte Montmartre.
Oui, alors voilà, j'étais Montmartre 3 et j'avais trouvé au Square d'Anvers, en face de l'Élysée Montmartre, des locaux dont je voulais faire un studio d'enregistrement et j'ai créé les baquettes de Barclay.
Ouais.
Parce qu'il avait un grand studio à Vnioche, mais il n'avait pas de studio de maquettes. Donc j'ai fait ce studio. Et puis un soir, on était avec Francis Blanche, que j'ai connu dans ce milieu de la musique.
Ouais.
Je l'ai croisé 10 fois chez Barclay, puis on s'est bien convenus. Et on était tous les deux derrière la glace vitrée
du
studio. Et nous regardions danser les gens, parce que quand ils venaient pour nous faire la claque et les rires, et qu'on faisait un enregistrement, on invitait les copains à venir et à rester le soir pour danser et pour manger des petits fours. Et puis, il y avait une telle ambiance qu'on s'est dit, est-ce que nous pensons la même chose? Et 3 semaines après, on avait créé un théâtre à cet endroit-là,
voilà,
qui est devenu un cabaret fort célèbre à l'époque.
Qui s'appelait
Le Roi Lear.
Le Roi Lear, on va d'ailleurs y revenir, mais avant, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu plus longuement à Francis Blanche, et d'abord que vous nous disiez simplement, voilà, vos premiers échanges avec Francis Blanche, votre première impression du personnage.
C'était mon père sur le plan artistique.
Ouais.
Il avait l'âge de mon père,
ouais,
et quand on s'est rencontrés, on s'est tout de suite mis,
ouais,
autour d'une table à écrire des textes.
C'est quelqu'un qui n'arrêtait jamais, il faisait 1000 choses.
Il travaillait toujours, il ne dormait pas.
Il dormait vraiment très peu, oui.
Il ne dormait pas.
Ouais.
D'ailleurs, c'était la manière qu'il avait de pouvoir entretenir plusieurs ménages à la fois. On peut le dire, hein, il y a prescription maintenant. Et donc, il m'a dit, écoute, moi j'ai une émission le dimanche sur Europe.
Ouais.
Qui s'appelait « Les kangourous n'ont pas d'arrêt ». Si j'ai le temps,
parfait,
je peux vous raconter une anecdote.
Vas-y.
Et un jour, on était dans la cabine son de Europe, et il voit un petit jeune homme qui relevait tout ce qui se chantait. Et il mettait à chaque fois en haut de la page le titre de l'émission.
Ouais.
« Les kangourous n'ont pas d'arrêt ». Et il lui a dit « C'est quoi ça ?»« Ben, je suis obligé d'écrire le titre de l'émission ». Alors, il a changé le titre de son émission et il l'a appelé « Qu'est-ce qu'on peut faire un dimanche matin par un temps pareil ? Tiens, allume la radio au moyen de la musique. »
Ah, le salaud. Celui qui relevait les droits devait recopier ça en toutes,
voilà,
les pages. C'est pas parfait. Moi, j'adore Francis Blanche. Alors, je suis vraiment très heureux d'en parler avec vous. Et j'ai choisi, pour commencer, une chanson assez célèbre qui a été beaucoup reprise par les Branquignoles, « Ah, les belles moustaches ».
Oui.
Voilà.
Ce fut une sacrée séance dans toute la maternité, quand on a pris la naissance de cet étrange bébé. Son pauvre père et sa pauvre mère étaient un peu affolés, car leur fils portait une paire de bacchantes brun foncé. Et pour les consoler, les infirmières alors ont chanté: oh, les belles moustaches, 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 non, jamais on en a vu un aussi moustachu. Oh, les belles moustaches, 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 qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez? C'est la providence, c'est la destinée, celle qui fait pousser les hommes poissons, les femmes à barbe. Calmez vos alarmes et séchez vos larmes, car lui, il n'en a que plus de charme. Oh, les belles moustaches, 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 qui s'est longuillé le nez, autant de poils sous le nez. À 6 mois, quand sa nourrice voulait lui donner le sein, fallait d'abord qu'elle lui lisse les moustaches avec la main. Et quand pour faire une promenade, elle l'emmenait par hasard, ça faisait des bousculades, les agents sur les trottoirs arrêtaient les piétons et criait, béant d'admiration: oh, les belles moustaches, 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 alors jamais on en a vu un aussi moustachu, pas vrai? Oh, les belles moustaches, 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 mais qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez? Circuler. Plus tard, allant à l'école, il en fut très malheureux, car on lui collait l'école pour le rendre plus soigneux. Or, s'il y avait des taches sur ses livres et ses cahiers, c'était parce que ses moustaches trempaient dans les encriers. Et quand vint, 2 x 10, l'examen, le professeur dit: oh non, un chien! Oh, les belles moustaches, 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 alors jamais je n'en ai vu un aussi moustachu, c'est dit oui. Oh, les belles moustaches, 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 mais qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez? Répondez. Les femmes tombèrent comme des mouches dans ses bras d'adolescent. Rien que pour embrasser sa bouche, elles se battaient sauvagement.
Mais c'est vrai, mais ça tenait son tour, allons-y, c'est à moi, oui, maman.
Mais pour des raisons de famille, sa maman et son papa le marièrent à une jeune fille qu'ils ne connaissaient même pas. Et le soir, pudiquement, la mariée s'est écriée:
maman! Oh, les belles moustaches, 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 non, jamais je n'en ai vu un aussi moustachu. Oh, les belles moustaches, 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 mais qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez?
Sa moustache devint publique et célèbre officiellement, puisque le service historique la glaça comme monument. Il dut pendant toute sa vie s'exhiber dans les musées et fut à l'Académie élu sans s'être présenté. Et le jour de la réception, Jean Cocteau lui dit, plein d'émotion: oh, les belles moustaches, 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 mais qui c'est donc qui a donné autant de poils sous le nez?
Cœur des académiciens, c'est la providence, c'est la destinée, celle qui fait pousser sous la coupole autant de barbes.
Calmez vos alarmes et séchez vos larmes, car vous n'en avez que plus le charme. Oh, les belles moustaches, 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 vive la France et vive l'armée, et vive le poil sous le nez.
Francis Blanche et l'orchestre de Gérard Calvi en 1955. Xavier Jaillard.
Oui, je ne suis pas très content. Parce que vous faites chanter les autres, vous faites chanter Francis Blanche, et moi qui ai chanté du Francis Blanche, qui en ai co-composé avec lui, j'aurais bien voulu le faire aussi, mais comme vous n'avez pas voulu m'inviter mes 24 musiciens, eh bien, je vous propose de les chanter a cappella.
Toutes ?
Je suis là, non, je vous en chante une.
Ah bah avec joie, allez-y.
Eh bien, allons-y. Je suis une malle, je suis une malle, je suis une malle, j'ai une poignée, mais j'aime mieux être une malle qu'un ballot. Voilà. Vous en voulez une autre?
Oui.
Ah, soyez bon pour les canards ont un père et une mère, laissez-les nager dans la mare. Vous voyez que c'était des œuvres quand même.
Oui, oui, je vois que vous avez bien travaillé tous les deux, c'est parfait, Xavier et Jaya. Non mais sans blague, il avait un grain de génie, Francis Blanche. Il y a à la fois une loufoquerie invraisemblable, une inventivité sans fin.
C'était un génie, il avait une culture énorme et il mettait tout au service de la dérision.
Voilà, sens de l'absurde total.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis, en même temps, oui, cette énergie à produire des chansons quand même de toutes sortes, parce qu'on oublie peut-être que c'est lui aussi qui a écrit, par exemple, Le prisonnier de la tour, qui n'est pas du tout une chanson loufoque.
Mais oui, non, mais attendez, il a une quantité de chansons tristes et mouvantes.
Oui.
On dit, je n'ai pas vérifié, mais on dit qu'il a 600 chansons au répertoire,
ouais,
dont beaucoup, d'ailleurs, n'apparaissent pas sous son nom parce qu'il les vendait.
Ah oui, c'est ça, oui.
Pour des raisons d'impôts.
Voilà, justement. Mais comment vous expliquez cette énergie à, dans une vie assez courte comme ça, mais à produire mille choses de toutes sortes?
Je l'explique très bien. Il est mort à 53 ans.
Oui. Et il le savait d'une certaine façon.
Oui, oui, oui. Il le savait. Il se rendait bien compte qu'il brûlait la chandelle par les deux bouts.
C'était pas quelqu'un qui faisait extrêmement attention à sa santé, en particulier.
Pas vraiment, non.
Alors, en tout cas, voilà, vous avez animé ensemble le théâtre, le cabaret du Roi Lear.
Oui, alors c'était donc au début, comme je vous le disais, voilà, le studio des maquettes Barclay.
Ouais.
Et puis, quand on a vu ce qui s'y passait comme ambiance, on a décidé de faire du spectacle dedans.
Ouais.
Et c'est devenu un cabaret qui avait l'autorisation d'ouverture de nuit. On fermait les grilles quand le soleil
se levait.
Ah oui. Et on a fait des spectacles qui avaient la particularité par rapport au cabaret de l'époque, parce que vous voyez, c'était la grande époque des cabarets, hein,
oui,
début du Don Camillo, la Rose Rouge, etc.
La tomate,
on y reviendra. Mais au Roi Lear, on faisait un synopsis, et il fallait que les gens qui venaient faire leur numéro de cabaret s'inscrivent à l'intérieur de notre spectacle.
Ah oui, c'était très très construit. Donc.
C'était construit. Et on a eu comme ça, je crois, 9 revues, dont ORTL numéro 1, parce que ça, c'était un mélange de RTL, de l'ORTF, de Europe numéro 1 à l'époque. Et puis, après, on a fait Arthur nous compte, parce que c'était Arnur Comte à l'époque. Voilà. Et puis, un jour, il nous est venu l'idée de faire un festival raté de la magie bidon.
Oui, j'adore ce titre, Festival raté de la magie bidon, Francis Blanche et Pierre Dac, pour le coup.
Et alors là, du coup, j'avais réussi à réunir dans ce festival, comme numéro clou de la soirée, le fameux Sarah Bindranath Duval, qu'il ne faisait plus parce que ils avaient 30 ans de différence. Hein.
Oui, c'est ça. Oui.
Et donc, Pierre Dac était âgé, il avait 80 ans, mais j'ai réussi à les convaincre de revenir sur scène pour refaire ce sketch culte que tout le monde connaît par cœur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Bien sûr. Mais il y avait une vraie amitié entre les deux?
Ah oui.
Oui,
oui, oui, mais avec un respect formidable. Ils se sont toujours vouvoyés.
Ah oui.
Et ils se disaient vous parce qu'ils avaient une génération de différence. Et moi, avec mes 25 ans, à l'époque, je disais tu aux deux parce que c'était papa pour l'un et papy pour l'autre.
Oui, c'est ça.
Et d'ailleurs, Pierre Dac était le parrain de mon fils.
Ah oui, quand même. Vous étiez donc très très proche.
On était très proche.
Alors, on va peut-être illustrer maintenant justement ce côté un peu plus sombre de Francis Blanche, après le côté très loufoque qu'on vient d'entendre, avec une chanson que j'aime beaucoup, ça tourne pas rond dans ma petite tête. Vous la connaissez, j'imagine.
Mais je la chantais dans un spectacle.
Dans un spectacle.
Que je donnais,
mais laissez... Odette Laure, ça vous va quand même?
Oui, oui, laissez-la chanter par d'autres, ce sera mieux.
Viens renvoyer la bonne, paraît qu'elle volait des sous à maman. Elle a pleuré comme une folle, crié que c'est injuste et fait des serments. C'est moi qui ai dit qu'il l'avait vue. Naturellement, tout le monde m'a cru. C'est pas vrai, mais ça fait plaisir. Je pense que j'aime bien mentir. Ça tourne pas rond dans ma petite tête. Des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. J'aime bien casser deux, trois vitres et faire croire après que c'est le courant d'air. Avec une fourchette à huit, j'aime piquer les fesses du chat grand-mère. Quand je suis toute seule, je dis des gros mots et je vide les bouteilles de Porto. dans les livres d'images les dessins des enfants passages. Se tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, mais quand je m'embête, faut que je fasse des bêtises. Pareil qu'avec de la poigne, on peut me corriger, a dit le docteur. Faudrait que j'aille à la campagne, moi ça me plairait bien, j'aime tellement les flancs. Pour leur arracher les pétales, je pense que j'aime bien faire mal. Depuis que mon petit frère s'est noyé et qu'on a dit que je l'avais poussé, pour une fois c'était pas vrai. Ça tourne pas rond dans ma petite tête, des fois j'ai des drôles d'idées. C'est pas de ma faute, et quand je m'embête, faut que je fasse des
Odette Laure, merveilleuse interprète de cette chanson, alors très noire. Lui aussi, il avait des drôles d'idées, quand même, Francis Blanche, Xavier Jaillard.
Oui, ben Francis Blanche, c'était un comique, c'est-à-dire, comme la plupart des comiques, un désespéré.
Ouais.
Je crois que c'est une façon d'affirmer son désespoir, non, l'humour.
Mais dans la vie, il était toujours drôle.
Non. Il était drôle, mais souvent drôle méchant.
Ah,
et
oui.
Un jour, je lui dis, c'est méchant ce que tu as dit là, pour faire un mot.
Ouais.
Et il m'a dit, est-ce que tu connais un humour gentil?
Ah oui, il avait peut-être pas tort. Hein,
ou si, il avait tort quand on écoute Raymond Devos.
Oui, c'est vrai. Oui, Raymond Devos qui est venu au Roi Lire, d'ailleurs.
Qui rodait ses sketchs chez nous.
Il venait roder ses sketchs.
Ouais.
Parce qu'il faut dire que dans votre cabaret, donc avec Francis Blanche, le Roi Lire, sont passés beaucoup, beaucoup d'artistes importants de l'époque.
Oui, grâce au fait que j'avais la chance d'avoir des vedettes,
oui.
Que j'avais là, sur place, Francis oui. Blanche et Pierre Dac. Évidemment, ça faisait venir un peu tout Paris. Et je vais peut-être... rappeler des souvenirs. Alors, au plus ancien, j'ai joué des sketchs avec Marie Marquet.
Ah oui, alors ça remonte très loin dans
Marie
le temps.
Marie Marquet
hein.
était une diva...
plutôt du début du siècle.
Du début du siècle, et elle prétendait qu'elle avait... Pardon, excusez-moi, mais elle prétendait qu'elle avait été dépucelée par Edmond Rostand.
Ah oui, c'est pas mal.
Voilà.
C'est un titre de gloire, quand même.
Et puis, Jacques Fabry, avec qui on a aussi joué, et puis Marie-Thérèse Orin, dont vous parliez tout à l'heure.
Ah, elle est venue aussi au Roi Lire,
mais
cette
oui.
chère Marie-Thérèse, qui sera là pour les 20 ans d'Étonnez-moi
oui.
Benoît.
Et Stéphane Drapelli venait faire le bœuf tous les soirs.
Et puis les Frères Ennemis aussi.
Alors les Frères Ennemis étaient là pratiquement à l'année.
Vous m'avez raconté, Xavier Jaillard, que vous aviez failli hériter, à la mort de Francis Blanche, de toute une collection inédite, malheureusement perdue aujourd'hui, de blagues téléphoniques.
Oui, j'ai pas failli,
oh là là, quel
j'ai
dommage.
Hérité de ça. J'avais une énorme caisse en fer avec 3000 bobineaux.
3000 ?
Et je les ai rendus à son épouse.
Ouais.
À l'époque, à sa mort, et personne ne sait ce que c'est devenu, je ne sais pas.
Ce sont quoi vos derniers souvenirs de Francis Blanche ?
C'est un peu pathétique. Et on le soignait pour un diabète lourd.
Voilà, il faisait le contraire de ce qu'il fallait faire, c'est qu'il mangeait beaucoup de sucre, évidemment.
C'est ça, et il avait un régime sévère qui lui faisait plus ou moins perdre la mémoire,
ouais.
Ce qui a désespéré le comédien qu'il était. Et puis un jour, il a décidé de faire un repas gastronomique avec tout ce qui lui était interdit. Et c'est de ça qu'il est mort.
Ah oui.
C'est une forme de
suicide. À la Francis Blanche, en tout cas. Voilà un personnage moi, que je ne me lasse pas de revoir. Évidemment, dans ses grands rôles loufoques de Papa Schultz ou des tontons flingueurs. Mais
dans
aussi,
les tontons flingueurs, je peux vous dire une chose. À un moment, il est dans la cuisine, vous savez, quand il n'y a pas que de la pomme. Et à un moment, arrive une petite bonne et puis il y a l'argent sur la table.
Ouais, bien sûr,
et Francis Blanche Je dis, touche pas au Grisby, salope! Ouais. Et il m'a toujours dit que c'était pas dans le texte.
Il vous l'a inventé immédiatement. Mais ça a été aussi le titre d'un film. Alors, je sais pas si c'était avant ou après, mais.
Ah, touche pas au Grisby, oui, je crois que c'était avant.
Alors, en tout cas, voilà, Francis Blanche, vous lui rendez hommage aujourd'hui, Xavier Jarre, dans un spectacle que vous avez commencé, à faire tourner depuis le début de l'année. Vous l'avez monté sur une péniche, le nez rouge.
Oui.
Vous le faites en compagnie d'une harpiste, très grande harpiste, Céline Mata, et vous dites notamment des textes de Francis Blanche.
Oui, je dis des textes. Ça s'appelle ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer.
Voilà.
Et je trouve que la mode est au spectacle interactif ou faussement interactif, peut-être, avec le public, en disant, bon ben voilà, on est au coin du feu, on va se raconter des histoires, on va se dire des textes. Et évidemment, j'annonce que ça va être très triste et très ennuyeux, parce que je vais choisir des textes difficiles, puis je commence par 4 ou 5 de Francis Blanche, pour continuer sur des choses qui, parfois, je dérape. Je dis aussi du Rabelais, du Voltaire.
Du Renard, j'imagine.
Évidemment.
Évidemment. Et du Raymond DeVos.
Et puis du Raymond DeVos, et puis du Pierre Desproges, et puis voilà. Et puis du Moi.
Oui, bien sûr, du Jaillard. Ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer. On va écouter un petit texte, de Francis Blanche, Arlequin poignardé. Il vient d'où, précisément, ce texte?
C'est une poésie qu'il a écrite et qui fait partie
d'un recueil
qu'il a appelé Mon oursin et moi. Et ça a une raison. Le recueil s'appelle comme ça parce qu'une des poésies dit un oursin dans mon poing fermé, j'ai souri, j'ai ri, etc. Et tout le monde dit cet homme réussit à être drôle avec un oursin dans la main.
Arlequin. Arlequin. Poignardé sur les quais du vieux Londres. L'enquête est mal conduite et Scotland Yard s'y perd. On a fouillé en vain la chambre à Denton Square. La dame de l'hôtel refuse de répondre. On recherche un vieux clown qui à l'heure du crime réparait sur les docks un cerceau en papier. Lui seul peut révéler à l'inspecteur Verdier quelle était la chanson que chantait la victime. Interpol a lancé 3 agents sur l'affaire. On a interrogé les amis du défunt. Polichinelle à Rome, Colombine à Berlin et Pierrot qui faisait du ski à Val d'Isère. Tous 3 ont répondu d'un air un peu bizarre. Car ils savent déjà que c'est bientôt leur tour. Ils connaissent le nom du tueur de guitare. Et pendant ce temps-là, l'assassin court toujours. L'assassin court encore. Il s'appelle Chacun de nous, de vous, aux 13 coins du monde, chacun a plus ou moins, dans les brouillards de Londres, un soir, sans le savoir, poignardé Arlequin.
Voilà encore un Francis Blanche assez sombre, n'est-ce pas Xavier Jaillard?
La palette était large.
Avec Céline Mata à la harpe, et c'est là qu'on découvre que non content d'avoir été auteur, compositeur, interprète, directeur de cabaret, vous êtes aussi acteur, comédien.
Oui, j'ai beaucoup joué sur scène.
Oui. Notamment le théâtre que vous aimez, de Molière à Feydeau.
J'ai joué une 50aine de pièces, et notamment beaucoup du répertoire de Molière. Pendant 3 années de suite, j'ai été le bourgeois gentilhomme. J'ai été Monsieur Jourdain.
C'est au Roi Lear que vous avez vraiment appris votre métier, si j'ose dire.
Oui, parce que je n'ai pas eu d'autres cours d'art dramatique que Francis Blanche.
Voilà.
Et quand je dis ça aux gens, ils me disent c'était déjà pas mal.
C'était déjà pas mal. Alors, Francis Blanche est mort jeune, vous l'avez dit. Hein.
Oui.
Un autre personnage que je voudrais évoquer ce matin, qui était plus âgé que Francis Blanche, mais qui est mort nettement plus tard, c'est un chansonnier un peu trop oublié aujourd'hui, mis à part une chanson qu'on écoutera pour le plaisir, c'est Robert Rocca, qui a été aussi une des grandes figures du spectacle des années 50, 60, 70 et que vous avez bien connu. Hein.
Ah mais alors lui, je vous ai dit tout à l'heure que mon papy c'était Francis Blanche.
Oui, alors il faut trouver un autre.
C'est bien, il faut avoir deux papys.
Ah hein, oui, bien sûr. Bah oui.
Un côté garçon, un côté fille. Oui. Et Robert Rocca était mon autre grand-père.
Ah oui.
On était vraiment très amis, il y avait une espèce de relation plus que filiale entre nous.
Mais alors lui, c'était pas, comme Francis Blanche, j'oserais dire, un excentrique, c'était vraiment un chansonnier de la tradition des chansonniers.
Tout à fait. Ouais. Il avait été élu d'ailleurs dans les années 60, le prince des chansonniers, et il a réalisé la toute première émission de chansonnier, l'émission de sketch qui y ait eu à la télévision française quand elle était encore en noir et blanc, et ça s'appelait La boîte à sel.
La boîte à sel, et il a fait d'ailleurs beaucoup d'enregistrements, moi j'ai regardé dans la discothèque de Radio France, parce qu'il a aussi fait beaucoup, il chantait bien, enfin il savait chanter en tout cas comme un chansonnier, et alors donc il commentait aussi l'actualité au fond, ça faisait partie du métier.
C'est ça, mais souvent comme faisaient les chansonniers sur des airs connus.
Voilà. Mais comment vous l'aviez rencontré, Robert Rocca ?
Robert Rocca, je l'ai simplement embauché dans un de nos spectacles, voilà.
Toujours au Roi Lear.
Toujours au Roi Lear.
Et vous êtes devenu ami.
Oui, mais vous savez, il passait beaucoup de gens célèbres qui acceptaient de jouer le jeu, d'entrer dans notre système de spectacle composite. Et je pourrais vous citer là-dedans Jean Amadou.
Oui, bien sûr.
Il restait longtemps. Maurice Orgue, les rodages de Raymond Devos, on en a parlé. Les Frères Ennemis, et puis Marie-Paul Bell, et puis Nicole Rieux, et puis c'était Stéphane Brapelli dont je vous parlais.
Mais restons à Robert Rocca un instant, le personnage, alors c'était quelqu'un de charmant, je crois.
Oui, moi je le trouvais tout à fait adorable. C'était un type d'une culture immense, et c'était un bibliophile acharné.
Ah oui, un grand lecteur encore.
Et un amoureux de Jules Renard, ce qui nous reliait encore un peu plus.
Évidemment. Alors, Robert Rocca, je vais maintenant proposer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore ce petit chef-d'œuvre qu'il a enregistré, qui s'appelle « Ils en sont tous », eh bien, ouvrez l'oreille, parce que c'est vraiment très très drôle. C'est l'histoire dans une petite ville imaginaire en France, avec Robert Rocca qui a écrit le texte et qui le chante lui-même.
C'est une petite ville aimable, comme chez nous on en voit tant. Une grande rue, une place adorable, avec une fontaine au mi-temps. Une petite église qui s'embête, une mairie qui sent le renfermer. Une petite gare où le train s'arrête, quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante, où le ciel est clair, où l'air est doux. Et le chef de gare à la descente vous dit tout de suite:
bonjour monsieur.
Dans ce pays-là, ils en sont tous. Le boucher commence à l'histoire, un jour qu'il emmenait son commis chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire qui, devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine remercia troublé et rougi, ajoutant avec un peu de gêne: le gendarme me l'a déjà dit. Dans ce pays-là, ils en sont tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois, dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir, l'épicier un peu gris fut trouvé couché près de sa femme. Il a dû quitter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont fait aussitôt sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire. Le commissaire l'a pris sur ses genoux. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville et il parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jacques qui soit encore un vrai garçon. comme il a eu 6 ans à Pâques, on peut pas se faire d'opinion. Faut voir de quel amour sincère elles entourent le moutard. Elles le soignent bien car elles espèrent se le mettre de côté pour plus tard. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de les remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tintouin ? Le soir, quand il rentre au presbytère, sur sa bécane, il est inquiet. Ils se mettent tous à plat ventre par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse, le curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blinder le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est une charmante ville de France où le ciel est clair, où l'air est doux. Messieurs, passez-y vos vacances si vous vous sentez sûr de vous. Sous la verdure qui la cache, la petite rivière court sans bruit. Si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera des prix. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfait qu'il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en sont tous.
Robert Rocca en 1953 dans ce petit chef-d'œuvre, ils en sont tous, que j'imagine vous connaissiez, Xavier Jaillard.
Bien sûr.
Parmi pas mal d'autres chansons d'ailleurs qu'il a enregistrées, et ça m'a donné envie d'en ressortir un certain nombre. Alors, il y a un lieu qui est associé à Robert Rocca, je crois qu'il était la Tomate.
Oui, alors la Tomate c'était un cabaret, c'était un théâtre de chansonniers, et c'était au coin de la rue Notre-Dame-de-Lorette et de la rue Pigalle, je crois.
Ouais.
Et en 1951... ça fait quand même bientôt 70 ans,
ouais.
Il était encore tout jeune. Et comme il était fou amoureux de Jules Renard, il avait écrit une adaptation pour le théâtre du journal de Jules Renard,
ouais.
Qui est quand même un livre de chevet.
Ouais.
Et il a voulu le jouer, et pour ce faire, il n'a rien trouvé de mieux que d'acheter un théâtre. Vous connaissez la définition du millionnaire, c'est un ancien milliardaire qui a acheté un théâtre. Alors, il a donc acheté ce théâtre, et puis après il n'avait plus de sous. Et il a monté son journal de Jules Renard, et je lui ai dit, mais tu le faisais jouer par qui ? Et il m'a dit, ben j'ai pris des petits jeunes parce que je les payais pas cher, et les petits jeunes qu'il a pris, c'était Jean Carmet, Louis de Funès, Serrault, Poiret et Jacqueline Maillan. Il y a quand même des gens qui ont le nez.
Oui, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, j'ai retrouvé le disque dans les archives de Radio France et je me réserve là des très très bons moments à écouter ce journal donc de Jules Renard, adapté, on peut dire, hein, par Robert Rocca, enfin qui a reconstruit,
oui,
les extraits.
Qui a tout reconstruit et, voilà. pour le scénariser.
Voilà. Jules Renard, c'est donc un homme qui vous rapproche de Robert Rocca et mais aussi de votre région natale.
Parce
voilà.
que je suis né dans le village à côté de celui de Jules Renard, au ouais. point que dans les journaux de Jules Renard, je retrouve des noms de lieux et de personnes que j'ai entendus dans la bouche de mon grand-père.
Mais c'est par la proximité géographique que vous avez vraiment aimé son œuvre
d'une vous savez,
façon.
Montesquieu, dans sa théorie des climats, dit que à force de regarder les mêmes paysages, on finit par penser la même chose.
Ah oui, alors donc ça doit être ça. Donc vous pensez un peu comme Jules Renard, avec la même noirceur, la même drôlerie en même temps ?
Je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire ma propre autocritique.
En tout cas, vous avez donc, en tant que chancelier de l'Académie Alphonse Allais, depuis maintenant 2-3 ans, lancé dans la ville d'Autun, les prix Jules Renard.
Oui, hein, voilà. J'ai lancé 2 prix, parce que vous savez, une académie, ça a des vocations très précises. Ouais. Premièrement, ça intronise des gens. Deuxièmement, ça remet des prix.
Oui, bien sûr.
Il y a un prix Alphonse Allais, qui est le privilège du chancelier, une fois par an. Dites, Umberto Eco l'a eu.
Oui, 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 c'est très belle.
J'ai créé 2 prix, il y a 3 ans, le prix Jules Renard, avec l'aide de la région Bourgogne et dans la ville d'Autun. Et c'est donc la 3e édition cette année. J'ai créé l'année dernière, et elle va de nouveau avoir lieu en juin, la manifestation qu'est le prix de la version courte, c'est-à-dire le prix des formes courtes de littérature, qui est le prix René de Obaldia.
Et avec le cher René, donc qui a
vient,
le prix qui porte son nom.
Et qui
voilà.
vient à 100 ans pour présider son prix. Ça se passe à côté de Nevers, toujours dans la Nièvre. Et puis on a fait aussi d'autres créations. Mais je vous en reparlerai.
Enfin, en tout cas, voilà, c'est une académie qui ne chôme pas, l'Académie Alphonse Allais, et qui nous donne le plaisir de vous recevoir aujourd'hui avec tous ces souvenirs de chansons. Alors là, je ne sais pas si c'est Le Roi Lear, mais vous m'avez donné l'occasion aussi de la retrouver, cette belle chanson de Nicole Rieu, qui s'appelle Je suis.
Oui, elle chantait ça,
Roi Lear. Elle venait au Roi Lear.
Oui.
Elle était comment, Nicole Rieu, dans votre souvenir?
Ben, moi, j'en ai un souvenir... éblouie sur scène. Oui. Elle était belle en scène. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas belle hors
dans la vie,
scène,
oui, oui.
Mais en scène, elle transcendait.
Je suis ruisseau, fleur, rivière. Je suis le vent, la pluie. Je suis l'ombre, la lumière. Je suis la vie. L'ouragan sur la dune, je suis une symphonie, je suis un noyau de prune, je suis l'oubli. C'est peut-être l'automne, c'est peut-être l'hiver, c'est grève, je suis feuille au gré du vent, je suis l'ombre des ténèbres, je suis le temps, je suis l'esprit, l'étincelle, je suis l'espace, l'infini, je suis.
Nicole Rieu, choisie par Xavier Jaillard, qui m'a donné envie de l'inviter un de ces jours, tiens, à ce micro, parce que voilà, une artiste importante, hein, oui, dont on parle peut-être pas suffisamment, à la radio. En tout cas, Xavier Jaillard, vous êtes avec nous ce matin pour parler de cette vie multiple entre scène, chanson, humour, ou pas humour d'ailleurs. Et la preuve, enfin, il y a de l'humour dans cette œuvre, mais vous avez eu un grand succès quelques années après l'époque du Roi Lear, donc avec une adaptation qui a été d'ailleurs couronnée par les Molières, celle de La vie devant soi de Romain Gary, non pas pour le cinéma, bien sûr il y a le film, mais vous pour le théâtre, ça a été une chose dans laquelle vous êtes lancé avec beaucoup de succès. Comment vous avez eu envie de faire ça?
Je ne sais pas, tout le monde a aimé La vie devant soi, ouais. Ceux qui n'ont pas lu le roman avaient vu le film avec Simone Signoret.
Ouais.
Et puis, je ne sais pas s'il y a un sujet plus actuel et plus profond et plus émouvant que l'histoire d'amour entre une vieille juive et un jeune petit arabe qu'elle garde et qui lui reste comme enfant.
Et alors donc, vous avez décidé d'en faire une pièce de théâtre ?
Oui. Vous savez, il y a toujours un problème avec le théâtre. C'est que vous ne pouvez pas promener une scène de théâtre dans le monde entier, les décors dans le monde entier. Ouais. Et là, ça permettait de regrouper tout dans l'appartement de Madame Rosa. Et donc, j'ai trouvé que ça s'y prêtait bien, oui. Pour tout vous dire, on me dit toujours, vous savez, avec un titre comme ça, t'as dû trouver tout de suite. J'ai mis 13 ans.
À pouvoir la montrer.
Première, ah oui. La première lecture a eu lieu au théâtre de l'Atelier avec Annie Girardot.
Et vous l'avez finalement montée à Marigny en 2007.
En 2007 ouais. Et en 2008, on a été couronné par trois Molières.
Et vous étiez vous-même sur scène également.
Oui, je jouais le rôle du Dector Katz.
Voilà, voilà. Donc un moment marquant de votre parcours, Xavier Jaillard. Et puis ensuite, vous avez également été voilà l'homme, le programmateur, le découvreur, le patron, on peut dire du petit Héberto.
Oui, parce que au bout de.
Alors il faut rappeler d'abord, il y a un grand théâtre à Paris qui s'appelle le Théâtre Héberto, qui est l'ancien Théâtre des Arts, qui a une histoire oui. fabuleuse d'ailleurs. Ce théâtre, ouais. Ça a été un haut lieu de la création. Et puis dans ce théâtre, il y a le petit Héberto. Qui est donc une
si vous voulez connaître la vraie histoire du grand Héberto, lisez le dictionnaire de l'Académie Alphonse Allais, parce que une académie, ça fait un dictionnaire.
Ah, ben c'est évidemment, on n'en a pas parlé, c'est sûr.
Et oui, dans oui. le dictionnaire, il y a l'histoire du petit Héberto authentique que je raconte, remontée à l'époque romaine sous le nom de Hébertus Magnus.
Voilà, je me demande si c'est bien sérieux tout ça. En tout cas, vous êtes, voilà, vous avez repris ce théâtre et vous y avez programmé alors, beaucoup de monde.
Voilà, j'y voilà. étais venu jouer, donc, en tant qu'employé, quelques années auparavant. Et puis, après un an et demi de succès à Paris, d'abord au Théâtre Marigny, puis ensuite au Théâtre de la
Vie de Vansois, oui.
De la Vie de Vansois, plutôt que de partir en tournée, j'ai préféré rester à Paris, profiter de cette chance pour essayer de monter des créations. Oui. Et à ce moment-là, Pierre Franck, qui était directeur du Grand Héberto, m'a laissé la direction du petit Héberto. Et là, j'ai pendant 5 ans pu faire enfin des créations.
Voilà, j'ai vu d'ailleurs moi une belle soirée, je me rappelle, pour les 90 ans, je crois, de René de Obaldia, justement.
Oui,
qui était monté sur scène.
Oui, René de Obaldia était venu me demander de monter un spectacle de lui. Et j'ai dit non, je veux un spectacle avec toi.
Voilà, vous avez monté beaucoup de spectacles, y compris musicaux, y compris quelquefois assez, comment dire, olé olé, les nuits d'une demoiselle, par exemple.
Oui, mais c'était à 22h30.
Hein. Ah ouais.
C'était Roland Romanelli et Rebecca.
Voilà, moi je connaissais la version Colette Renard de ses chansons
oui.
Érotiques, mais alors vous l'avez repris avec Roland Romanelli à la
Corneille. Oui, j'ai même fait la mise en scène.
Voilà, et c'était un bon succès.
Mais oui, ça a marché pendant des mois, il le reprend encore en ce moment.
Ah voilà.
S'il est encore à l'affiche, pas au petit Héberto.
Voilà, donc c'est un lieu voilà qui est à compter aussi dans toute cette aventure. Alors, je propose qu'on vous retrouve maintenant, Xavier Jaillard, dans votre spectacle « Ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer oui. », avec une autre petite perle. C'est encore un texte que je trouve drôle, pour le coup, de Francis Blanche, qui s'appelle « Le berger ».
Oui.
Et puis, vous êtes toujours accompagné à l'art par Céline Mata.
Voilà, je commence toujours par ça, parce que je dis... Vous allez vous emmerder et je vous en apporte la preuve.
Le berger écoute le vent. Le berger compte les étoiles. Le berger regarde le temps grisailler son manteau de toile. Le berger confie son troupeau à l'épaule de la montagne. Le berger joue de son pipeau, la voix du torrent l'accompagne. Mais par les longues nuits d'été, couché seul sur le dos dans l'herbe, compagnon de l'éternité, le berger s'emmerde.
Les cinéphiles auront reconnu un extrait de la musique du film, là, pour le coup, La vie devant soi, que vous avez adapté, vous, pour le théâtre, Xavier Jaillard, et auparavant, vous disiez, j'adore ce petit texte de Francis Blanche, Le berger sans merde. Xavier Jaillard, je sais pas s'il y a beaucoup de bergers dans le Morvan, mais en tout cas, aujourd'hui, vous continuez à partager votre vie entre Paris et cette belle montagne.
Oui, j'essaie d'être le plus possible dans la belle montagne pour pouvoir m'isoler et écrire.
Vous montez comme Jules César au sommet du Mont Beuvray pour écrire vos mémoires.
Parfaitement, je voudrais même y être enterré, comme François Mitterrand.
Voilà. En tout cas, un beau programme. Vous avez des projets pour les années à venir. Animer l'Académie Alphonse Allais, j'imagine.
Oui, ça me prend beaucoup de temps. Oui. Et puis, indépendamment de ça, organiser les prix que ça implique. Oui. Et j'ai un projet dont je voudrais dire un mot.
Oui, allez, vous êtes là
parmi
pour ça.
Les vocations d'une académie, il y a celle de la transmission du savoir. Ouais. Or, j'ai remarqué qu'au XXIe siècle, la nouvelle génération, et notamment la nouvelle génération du rire, s'est coupée de ses bases. Uh-huh. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, avant, on héritait du savoir des parents et des grands-parents. Aujourd'hui, on hérite beaucoup plus de son téléphone portable et des réseaux sociaux. Et du coup, je remarque que les jeunes
humoristes ne connaissent pas leurs aînés.
Non, ils se sont coupés de leur base. Ah ouais. Alors, j'ai trouvé qu'il fallait que nous ayons un devoir de passation entre l'humour du XXe siècle dont ils héritent, mais ils n'en savent rien, et le XXIe siècle. Donc, on va lancer une opération comme ça dans tous les centres culturels de la francophonie.
À propos de transmission, Xavier Jaillard, j'étais passionné en plongeant un peu dans votre vie de m'apercevoir que vous êtes le père aussi d'un grand musicien, hein, Frédéric Jaillard. Alors en plus dans cette émission, moi, j'ai toujours aimé mettre en valeur les arrangeurs, ce merveilleux métier de directeur artistique, d'orchestrateur, ce qui est une des cordes de son arc, même s'il est aussi compositeur et enfin c'est un musicien complet. Mais voilà, Frédéric Jaillard, Fred Jaillard.
Oui.
Voilà.
Oui. Ça me fait très plaisir que vous parliez de lui parce que c'est difficile pour un papa de parler de son fils.
Ouais.
Bien sûr, je lui ai confié des musiques de certaines de mes pièces de théâtre. Ouais. Et je dis toujours, personne ne me croit, que si je les lui confie, c'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est parce que je trouve que c'est bien.
Mais oui.
Sinon, je lui donnerais pas.
Il est notamment d'ailleurs le complice de Thomas Dutronc. Il a même été grandement récompensé pour la réalisation artistique de Comme un manouche sans guitare et
d'autres
disques.
Oui, ils ont pu ensemble pris de la musique. Oui,
voilà, donc ça se transmet dans la famille Jaillard.
Bah écoutez, je le souhaite.
Voilà, mais moi j'espère que vous viendrez à nouveau un de ces jours évoquer tous ces souvenirs justement qui nous passionnent, nous et nos auditeurs, de l'humour comme on le faisait dans les années 60, 70, 80.
Oui, oui, et comme on essaie encore, s'il vous plaît, de le faire aujourd'hui.
Merci monsieur le chancelier.
Merci beaucoup monsieur l'animateur, membre de l'Académie.
À bientôt.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones, je tombe de mon trône. T'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Comme une pizza sans olive, une page de pub sans lessive. Si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racine, comme le théâtre sans racine, sur cette plage sans Aline. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, Rolex, Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus compte. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe,
comme un manouche sans guitare, Thomas Dutronc avec Fred Jaillard, autrement dit Jaillard Junior, le fils de Xavier Jaillard qui était aujourd'hui mon invité. La vie commence au cirque Oxford. Oxford Circus, c'est le titre de cette chanson de Jack Hilton et son grand orchestre. D'ailleurs, pour faire plaisir aux nombreux auditeurs qui, après la dernière émission, m'ont dit qu'ils adoraient, comme moi, ces orchestres de musique légère qui faisaient rage en Angleterre et à la BBC entre les deux guerres.
Étonnez-moi Benoît, Benoît du Tertre, France Musique.
Et puis bien sûr, toute cette semaine, on a beaucoup parlé de Notre-Dame, un drame qui m'a beaucoup touché parce que j'habite Île-de-la-Cité, juste à côté de la cathédrale. Alors j'avais envie pour l'occasion de vous faire écouter une de ces belles prières religieuses consacrées à Notre-Dame, à la Vierge Marie, il y en a beaucoup. Et j'ai ressorti une version extraordinaire des litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc par la maîtrise de Radio France, sous la direction de Jacques Jouineau avec à l'orgue Henriette Roger. Évidemment, vous allez me dire, c'est pas tout à fait dans le ton de l'émission, mais c'est le principe de cette émission, de n'être pas toujours dans le ton.
Thank you.
Évidemment, c'est difficile d'ajouter quelque chose à cette si belle musique, sinon de rappeler que c'était les Litanies à la Vierge Noire de Francis Poulenc, sous la direction de Jacques Jouinot, avec la maîtrise de Radio France en 1958. Et puisque cette émission est aussi celle des contrastes, eh bien on va à nouveau finir joyeusement avec une musique de danse, le Swingalero, par l'orchestre de Fred Addison.
C'est un pas nouveau qu'on appelle le Swingalero. D'abord on avance à petits pas, quatre pas par-ci, quatre pas par-là. À la guitare, au banjo, pour danser le Swingalero. Et puis on recule à petits pas, quatre pas par-ci, quatre pas par-là. À la trompette, au saxo, pour danser le Swingalero. C'est mieux que le tango, que le black bottom, que le charleston. C'est mieux que le lambeth walk, c'est mieux que le yam et simple en somme. On va et on vient à petits pas, quatre pas par-ci, quatre pas par-là. À la grosse caisse, au piano, pour danser le Swingalero.
Le Swingalero par l'orchestre de Fred Addison en 1939. Voilà, c'est le moment de nous quitter, mais je vous rappelle que vous pouvez dès demain sur le site maisondelaradio.fr vous inscrire pour la grande soirée du 21 mai au Studio 104, les 20 ans d'Étonnez-moi Benoît. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Valérie Lavalard, réalisation Christine Amado. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un spécial Mireille et le Petit Conservatoire avec Marie-Charlotte Leclerc et Sophie Darel. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. France Musique, où vous avez maintenant rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.